Bonsoir, j'ai votre attention? Presque. On est tous foutus! Je pense qu'on peut résumer comme ça le développement de Paul, du chapitre 1, verset 18 jusqu'à 3:20. Si vous étiez là ces dernières semaines à Interfac, vous avez probablement remarqué ça. Paul a l'air de dire « on est tous foutus ». On a vu des textes durs, qui dégagent une impression de lourdeur, limite oppressant. Paul y fait ce développement suite aux versets 16 et 17 du chapitre 1, qui disent « Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord mais aussi du grec, car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. » Il commence à parler de la justice de Dieu qui apporte le salut. Mais avant de développer l'idée d'une solution, c'est-à-dire le salut, il juge bon de faire un long développement sur le problème. Parce que pour comprendre la solution, il faut comprendre le problème. Problème que j'ai résumé par ces mots, on est tous foutus. On est tous foutus, pour beaucoup de nos contemporains, je pense, en vue de ce qui se passe dans l'actualité. C'est pas difficile pour eux, éventuellement, d'avoir une vision du futur assez pessimiste. Mais ce que dit Paul, ce que n'imaginent pas forcément nos contemporains, c'est que le problème, c'est qu'on est tous foutus par rapport à Dieu. Paul a développé le fait que toute l'humanité en entier, est injuste par rapport à Dieu et mérite sa juste colère, sa juste condamnation. Sa conclusion, c'est une conclusion un petit peu juridique au verset 19. Le monde entier est coupable devant Dieu. Une fois que ce fait est démontré, établi par Paul, pendant 2 chapitres et demi, il peut reprendre son développement sur le salut et la justice de Dieu. Le salut, je le rappelle, c'est pas une manière de dire bonjour, mais c'est le fait d'échapper à un péril grave, le péril le plus grave de l'homme, la juste condamnation de Dieu. Donc, vous avez discuté en groupe les versets 21 à 26. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont allés jusqu'au bout? Voilà. Ouais. Non, jusqu'au bout du verset 26.
Ah oui.
C'est bien. C'est bien. Ok. Alors, je vais vous lire le texte, les versets 21 à 26. J'utilise la version Nouvelle Bible Second Modifiée. J'ai juste modifié un ou deux mots, pas parce que je pense que la Bible a tort, mais parce que ma traduction est meilleure, en toute modestie. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu, attestée par la loi et les prophètes, s'est manifestée. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction, tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en propitiation, au moyen de la foi, par son sang, pour montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, dans sa tolérance. Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent, pour être juste tout en justifiant celui qui relève de la foi en Jésus. Fin de la lecture. Alors vous voyez, le texte est un petit peu dense. Il utilise des mots un petit peu rigolos, comme rédemption, propitiation, peut-être dans vos bibles vous avez le mot expiation. J'espère que vous avez pu commencer à y voir plus clair dans vos groupes de discussion et que mes explications vont rendre le texte encore plus clair. Donc Paul reprend son développement sur la justice de Dieu qui sauve l'homme. Et surtout maintenant, il aborde la question du comment. Comment Dieu se débrouille pour sauver l'homme? Parce que, a priori, la base de la justice... c'est que si un homme est innocent, il est acquitté devant le juge, hein, c'est ce que le juge prononce. Si l'homme est innocent, il est acquitté. Si l'homme est coupable, il est condamné. Base de la justice. Paul vient de démontrer que tous les hommes sont coupables. Donc la question c'est, si Dieu acquitte l'homme coupable, est-ce qu'il ne serait pas injuste ? Alors souvent nos contemporains pensent, le simple fait de juger l'homme, c'est parce qu'il est injuste. Mais la vraie question de la justice, c'est acquitter l'innocent, condamner le coupable. Donc on va voir le premier point. La première partie, en fait je ne traiterai que de cette partie-là, c'est la justice de Dieu sauve l'homme. Et au verset 21, on voit le début d'une ère nouvelle, grâce à Jésus-Christ. Mais maintenant, notre passage commence par un « mais maintenant ». Et je crois que c'est votre première question de discussion. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce « mais maintenant » ? C'est un « mais maintenant » qui nous frappe, qui annonce un contraste important. Mais cette formule, c'est plus qu'un connecteur logique entre deux parties d'une argumentation. C'est une expression qui annonce une ère nouvelle, une nouveauté, un changement fondamental. Il y a un avant, il y a un après. Avant, c'était la loi. On était condamné par la loi. C'est l'ère dont Paul a parlé pendant les deux chapitres et demi avant. C'est l'ère de la colère de Dieu qui domine. Rappelez-vous ce qu'il y avait écrit verset 18 du chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute l'injustice et l'impiété des gens qui tiennent la vérité dans l'injustice. La colère de Dieu se révèle. Mais maintenant, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu qui sauve, qui domine la nouvelle ère. La justice de Dieu, ça veut dire la même chose qu'au verset 17 du chapitre 1. C'est le fait que Dieu justifie l'homme. Toute la question, ça va être de savoir qu'est-ce que ça veut dire, justifier. Ce « mais maintenant », il marque une discontinuité par rapport à la loi, parce qu'on est sauvé en dehors de la loi, mais ça marque aussi une continuité, parce que c'est la loi qui manifeste la justice de Dieu. Discontinuité, parce qu'il a déjà démontré, Paul, que la loi ne sauvait pas. La loi, elle faisait juste montrer, elle montrait juste le péché. La loi condamne juste le pécheur. Elle est incapable de sauver les Juifs. Mais d'un autre côté, Paul relativise la discontinuité, parce que la loi, les prophètes, la loi et les prophètes, c'est l'expression typique pour désigner l'Ancien Testament, elle anticipe, elle prédit, elle manifeste la nouveauté de la justice de Dieu. La justice de Dieu est manifestée par la loi et les prophètes. Mais maintenant, on peut se demander quelle est la nouveauté induite par le « mais maintenant ». Est-ce que la nouveauté, c'est la justification par la foi ? Je pense pas. Parce que on n'a jamais été. Ça pourrait être. Avant, on était sauvé par la loi. Maintenant, on est sauvé par la foi. Mais il n'a jamais été dit que les œuvres de la loi permettaient de sauver. Et surtout, au chapitre 4, Paul démontre que la justification par la foi est tout sauf nouvelle. La justification par la foi, elle existe depuis au moins 2000 ans avant Paul. C'est tout sauf une nouveauté. Donc qu'est-ce qui est la nouveauté ? C'est comment la justice de Dieu a été manifestée. La nouveauté, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est par la croix que la nouvelle ère est inaugurée, que la justice de Dieu par la foi est manifestée. C'est par la mort de Christ que la justification par la foi est possible. D'où mon deuxième point, un salut par grâce, grâce à Jésus-Christ. Il était question de justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et peut-être que dans ce texte, on peut voir la justice de Dieu de deux points de vue. Il y a le point de vue de Dieu et le point de vue des hommes. Et le verset 22, il commence par le point de vue des hommes. C'est par la foi que l'homme est au bénéfice de la justice de Dieu, du salut, en gros. La foi et le fait de croire, justice par la foi pour ceux qui croient, c'est à peu près la même chose. Donc on peut se demander, en ce début de verset 22, pourquoi est-ce que Paul répète deux fois la même chose ? Je crois que là, il y a une formule d'insistance. Il répète deux fois la même chose, mais il insiste sur deux aspects différents de la foi. En disant « par la foi en Jésus-Christ », il insiste sur le fait que la foi a un objet, et cet objet, c'est Jésus-Christ. Et avec « pour tous ceux qui croient », il insiste sur le fait que le salut est accessible à quiconque croit. Christ, objet de la foi, je crois que c'est important de souligner que la foi a un objet. Un objet pas qui est vague et indéfini, mais qui est bien particulier. Parce que dans notre société existentialiste, c'est pas forcément ce qui est important. La foi, alors elle peut être vue de manière positive, comme une sorte d'authenticité. Tu crois, tu as foi, c'est bien, ça te permet d'avancer. Mais finalement, peu importe en quoi tu as foi. Tu as ta foi, moi j'ai ma foi, ça nous permet tous les deux d'avancer. Au fond, on a tous une forme de foi, c'est merveilleux. On l'accomplit un peu chacun à notre manière. Et même les chrétiens peuvent être influencés par cette façon de penser. Je crois qu'il faut être vigilant. Seule la foi en Jésus-Christ, seule la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, nous met au bénéfice de la justice de Dieu. C'est une foi exclusive. Exclusive n'est pas un mot très sexy de nos jours. Mais on ne doit pas avoir peur d'assumer l'exclusivité de notre foi, parce que le relativisme ambiant, c'est aussi une sorte de foi exclusive, si on y réfléchit bien. C'est une foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il faut mettre cette phrase en parallèle avec la suivante. Foi, justice de Dieu pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. Tous, il y a deux fois le mot tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salut est possible pour tous qui ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Peut-être que vous avez un peu discuté de ce que c'était être privé de la gloire de Dieu. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Parce qu'il y a deux manières de comprendre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qui émane de Dieu. Dieu est glorieux, il est tout-puissant, etc. C'est glorieux. Mais l'homme est censé être glorieux aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est en image de Dieu. Étant en image de Dieu, il est glorieux, pas de sa propre gloire, mais d'une gloire qui renvoie à Dieu exactement. En péchant, cette gloire-là, elle n'est plus vraiment présente dans l'homme. Donc dans ce sens-là, on peut dire que l'homme est privé de la gloire de Dieu. Dans Romains 8, verset 18, Paul va expliquer que la gloire qui normalement émane de l'homme, va revenir à la fin. Il faut lire Romains 8, verset 18. Je n'ai pas trop le temps de développer ça, mais en tout cas, le péché provoque, annule, si on veut, le but de l'homme. Le but de l'homme à sa création, c'était de glorifier Dieu. Mais, et là en fait, il reprend un petit peu... ce qu'il avait dit avant. Il n'y a pas de distinction. Tous les hommes sont pécheurs. Alors, ensuite, c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce. C'est également sans distinction qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, au verset 24. Et vous voyez qu'à partir des versets 24 et 25, c'est un peu festival de mots rigolos. Par mots rigolos, j'entends un mot un petit peu technique, compliqué, qu'on connaît sans trop les comprendre, parce qu'on les entend depuis tout petit, sans qu'ils soient forcément explicités. En premier lieu, je ne suis pas sûr que tout le monde comprend vraiment le mot de justification ou de justifier. La justification, c'est le fait qu'on est justifié. Qu'est-ce que ça veut dire être justifié ? En fait, derrière ces mots un petit peu compliqués, que j'ai mis en rose notamment, il y a des images... même plus que des images, mais des sortes d'images, de facettes qui expliquent qu'est-ce que fait Jésus-Christ à la croix. Ce sont des images qui explique la croix, qui explique les différentes facettes de la croix. Et c'est des images qui vont nous emmener du tribunal, là où la justice se fait, en passant par le marché des esclaves jusqu'à l'autel du temple. Et la première image, c'est la justice. Justice. C'est l'idée de tribunal, le concept de tribunal. C'est pas un concept nouveau, c'est le concept avec lequel on nous bassine un petit peu depuis le début du passage. Et c'est pas pour rien qu'on commence par ceci. Il est dit que les hommes sont justifiés. Si on tape dans son moteur de recherche préféré la définition de justifié, on s'aperçoit que ce verbe peut avoir au moins trois sens. Justifié, ça veut dire acquitté. Justifié, ça veut dire légitimé. Justifié, ça peut être définir la longueur d'une ligne en typographie. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire dans ce passage ? Je crois qu'il ne s'agit pas de typographie, nous ne sommes pas les lignes d'un texte. Je crois qu'il faut éliminer le deuxième sens. Nous ne sommes pas légitimés, c'est-à-dire que nous ne sommes pas justes parce que nous devenons légitimement justes, nous ne devenons pas intrinsèquement justes. Si nous étions à l'intérieur de nous-mêmes vraiment justes, on ne serait pas coupable. Et donc le sens qu'il faut retenir, je crois, c'est le sens juridique de justifier, c'est-à-dire acquitter. Justifier, c'est l'acquittement des charges qui pèsent contre nous. C'est acquérir le statut juridique de juste, c'est-à-dire plus coupable. Alors j'ai dit ce que je pensais de ce que ça veut dire justifier. Je pense que c'est le texte qui dit ça. Je vais maintenant argumenter pourquoi je pense qu'il s'agit de ce sens-là, de justifier. Et d'une part, parce que dans le grec, c'est un terme juridique. Mais même si on ne connaît pas le grec, on peut venir à cette conclusion aussi si on regarde ce que dit le texte. Le texte continue. Notre justification se fait par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, avec la rédemption, on passe du tribunal au marché des esclaves. La rédemption, c'est le prix qu'on paye pour être libéré de l'esclavage. Il y a peut-être aussi l'idée de rançon, c'est-à-dire que souvent, on fait des esclaves avec la guerre, les prisonniers sont faits esclaves et on doit payer une rançon pour recouvrer sa liberté. La rédemption se fait en Jésus-Christ, ça veut dire que le paiement pour la libération se fait en Jésus-Christ, par sa mort. Jésus-Christ paye le prix pour nous libérer de notre esclavage. C'est une image pour parler du fait, c'est plus qu'une image en fait je pense, mais ça parle du fait que la mort de Jésus à la croix, c'est un prix qui est payé. Avec le verset 25, on passe du marché aux esclaves vers le temple, plus précisément l'autel du temple, là où se font les sacrifices. Le sang au verset 25, c'est pas le fait que le fait de verser le sang aurait un certain pouvoir mystique, mais ça renvoie au sacrifice dans l'Ancien Testament. Alors c'est quoi un sacrifice ? Le sacrifice, c'est le fait de tuer un animal. Pourquoi tue-t-on un animal ? Parce qu'on a commis une faute à l'égard de Dieu. Cette faute provoque la colère et elle doit être réparée pour que Dieu ne soit plus en colère. Mais normalement, dans la Bible, il est dit quelque chose comme le fautif ne peut pas vraiment réparer sa faute, le fautif doit mourir. Donc, ce qui va se passer dans le sacrifice, c'est que le fautif va sacrifier un animal à sa place. C'est comme ça que la faute est réparée. C'est pas le fautif qui meurt, c'est le sacrifié qui meurt. Tout ce que j'ai dit, on peut le résumer en trois mots. Substitution, expiation et propitiation. La substitution, c'est le fait que le sacrifié meurt à la place du fautif. L'expiation, c'est le fait de réparer la faute. La propitiation, c'est le fait que Dieu n'est plus en colère. Et si vous vous souvenez bien, encore une fois, verset 18, la colère de Dieu se révèle. Et donc le texte, il insiste sur le fait que le prix pour réparer la faute des hommes, c'est-à-dire l'expiation, a été payé par un sacrifice, le sang, celui de Jésus. Le résultat, c'est que Dieu n'est plus en colère. Propitiation. Dit autrement, aucun homme n'arrive à vivre une vie selon le standard de Dieu. Aucun n'arrive à mener une vie juste. Donc l'homme est condamné à mort. Début du chapitre 3. Mais Jésus meurt à notre place. Il est condamné à notre place. Dit autrement, notre faute entraîne comme une dette à Dieu. Mais c'est impossible pour nous de payer cette dette. Donc Jésus-Christ, par sa mort, il paye la dette à notre place. Donc comment se mettre au bénéfice de ce paiement, de ce sacrifice? Il suffit de croire. Il suffit d'avoir foi. De toute façon, on a vu, il n'y a rien du tout que l'homme peut faire. Si nous sommes sauvés, c'est par grâce. C'est grâce à Jésus. Grâce à Jésus, mais pas seulement, c'est aussi grâce à Dieu. C'est un salut par grâce, c'est mon troisième point. Un salut par grâce, grâce à Dieu. Je reprends au verset 25. Hein. Tu peux passer la suivante encore? Non, reviens. J'ai oublié, j'ai mal fait mon copier-coller. C'est pas grave. Verset 25, il y a le début du verset 25. C'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en propitiation. Il y a un accent sur le fait que c'est à l'initiative de Dieu que l'homme est sauvé. C'est Dieu qui fournit le moyen du salut. C'est grâce à Dieu qu'on est sauvé. Et en fait, normalement, un sacrifice, celui qui fait le sacrifice, c'est le fautif. C'est le fautif qui sacrifie. Mais là, c'est Dieu qui sacrifie. C'est Dieu propose le sacrifice. Et donc la question qui se posait, c'est la question que j'ai un peu posée en introduction. Comment est-ce que Dieu pouvait à la fois être juste tout en justifiant l'injuste? Dieu est juste tout en justifiant l'injuste parce que l'exigence du péché, la mort, notre mort, que produit notre faute, la mort est faite parce que Jésus meurt à notre place. La dette contractée par notre faute, elle est payée par Jésus. Et là, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que, je crois que j'en parle après, mais fondamentalement, ça change tout. Mais la justification, ça change rien non plus. Alors, j'explique ça un peu après. La deuxième question en fait qu'on s'était posée, c'est est-ce que la justification, c'est l'acquittement des charges qui pesaient contre nous, ou c'est le fait que il y a une transformation qui se produit en nous, qui nous rend juste. Et je crois bien que le texte nous dit que la justification, elle se fait grâce à la croix de Jésus-Christ. C'est pas quelque chose à l'intérieur de nous. C'est une œuvre objective, extérieure à nous-mêmes. Ce qui est subjectif, c'est notre foi. C'est notre foi qui nous met au bénéfice de la justification. Mais ce n'est pas notre foi qui provoque le bénéfice de la justification. Ce qu'il provoque, c'est la croix. Et la justification, d'un côté, ça change tout. Ça change notre relation à Dieu, pour ceux qui croient. Parce que Dieu n'a plus rien à nous reprocher. Il n'est plus en colère contre nous. Mais dans l'absolu, ça ne change rien, parce qu'on reste les mêmes. Notre statut par rapport à Dieu change, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est pas fondamentalement changé. Parce que la justification, c'est une première étape, first step, qui permet l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le changement intérieur. Mais ce changement ne peut se produire que si Dieu nous réconcilie à lui. Parce qu'une fois que Dieu nous réconcilie à lui, Dieu nous donne son esprit qui fait habiter en nous. C'est le sujet des chapitres 5 à 8 qu'on n'étudiera pas cette année, il me semble. Mais le Saint-Esprit, lui, va nous changer intérieurement. Alors, la grâce... j'ai pas encore vraiment commenté l'expression gratuitement par la grâce. Est-ce que tu peux revenir? Non. Oui, non, c'est ça, verset 24. C'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce. Gratuitement par sa grâce, encore une fois, Paul se répète, non pas qu'il radote, mais il y a une idée d'insistance, encore une fois. Il faut bien comprendre ce que c'est la grâce. On commence à comprendre l'idée une fois qu'on a compris ce qui se passe avec Jésus-Christ, mais la grâce, elle caractérise la manière dont Dieu agit. La grâce, c'est ce qui, c'est Dieu qui nous fait une faveur. C'est Dieu qui nous fait une grâce. C'est l'opposé du mérite. On ne mérite pas la justification que Dieu offre. Parce qu'on a vu avant que c'était impossible pour nous de mériter quoi que ce soit. Et la grâce, il faut bien le dire, c'est sympa. Alors, parmi vous, peut-être qu'il y a des personnes, c'est la première fois qu'ils entendent parler de la grâce. Il y a beaucoup de non-croyants qui pensent que la grâce, c'est trop facile pour être vrai. C'est un peu ce que dit Luc Ferry. Luc Ferry, philosophe, ancien ministre. S'il partait sur une île déserte, il prendrait un évangile de Jean. Pourquoi ? Parce que c'est vachement sympa. Il ne le dit pas comme ça. Hein. Mais il trouve ça très bien, ce qui est écrit dans l'évangile de Jean. Mais il est athée. Et il se justifie en disant « La grâce que Dieu propose, c'est trop beau pour être vrai. » Si vous êtes chrétien, peut-être que ça fait des années que vous entendez parler de la grâce. Est-ce que ça fait des années qu'on vous bassine, même, vous le ressentez comme ça en tout cas, à toujours parler de la grâce. Mais je crois que si on a ces réactions, dans un cas comme dans l'autre, c'est parce qu'on ne pèse pas. On ne pèse pas assez ce que ça veut dire, la grâce. Paul a démontré pendant 2 chapitres et demi à quel point notre problème était pesant. Et la solution que Dieu propose, elle est aussi pesante pour lui. Il tue son propre fils. Et si on comprend bien ce que veut dire la grâce, accepter la grâce par la foi, je crois que ce n'est pas si facile non plus. Pour illustrer la grâce, je vais me risquer à une image qui est peut-être un petit peu émotionnelle. Je vous propose de faire une petite expérience qui va faire appel à vos souvenirs. Essayez de vous rappeler d'une personne qui vous a fait du mal. Bon, désolé si je fais ressurgir des choses que vous auriez voulu oublier. Peut-être même essayez de penser à la personne qui vous a fait le plus mal. Je crois qu'on n'a pas de mal à se souvenir d'une expérience comme ça, à moins que ce soit profondément refoulé dans notre inconscient. Maintenant, une fois que vous avez la personne qui vous a fait du mal en tête, essayez de multiplier un petit peu ce mal et de bien comprendre que cette personne, il n'y a rien qu'elle peut faire pour se racheter, tellement elle vous a fait du mal. Eh bien, cette personne qui vous a fait du mal, c'est vous. Par rapport à Dieu. On imagine, je crois qu'on a du mal à imaginer ce qu'on a provoqué à Dieu. La colère de Dieu, c'est pas juste quelque chose comme les dieux grecs, vous savez, où c'était un peu la colère caprice. La colère de Dieu, elle est parfaitement justifiée parce que nous avons rejeté Dieu, parce que nous avons fait le mal, nous sommes rebellés contre notre Créateur. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Cette personne qui vous a fait du mal, maintenant, imaginez qu'elle va mourir. Je vois peut-être un problème de cœur, mais il y a une solution. La solution, c'est que c'est de lui greffer un cœur, et pas n'importe quel cœur, votre propre cœur. Il n'y a que votre cœur qui peut sauver la personne qui vous a fait du mal. Bien entendu, si vous lui donnez votre cœur, vous mourrez. Eh bien, Dieu, c'est exactement ça qu'il fait. Est-ce qu'il était obligé de faire ça? Non. Dieu ne nous doit rien. Dieu n'était pas obligé de nous sauver. Dieu n'était pas obligé de nous justifier. Mais il le fait quand même. Et c'est ça ce qu'on appelle la grâce. C'est une faveur imméritée. Et cette grâce, elle n'est pas facile à accepter. Parce que l'accepter, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est incapable. On reconnaît que face à Dieu, on ne vaut rien. Nous avons une valeur négative. On a une valeur nulle, peut-être même négative, face à Dieu. Accepter la grâce de Dieu, c'est d'abord reconnaître que qui nous sommes en face de Dieu. C'est reconnaître qu'on ne mérite pas Dieu. C'est en ça que la foi exclut l'orgueil. C'est ce qu'il y a au verset 28 que je ne vais pas avoir le temps de développer. Cette grâce, elle n'est pas du tout facile à accepter. Mais c'est quand même une grâce qui peut être acceptée. Il suffit de se rendre compte qui on est devant Dieu. Et on peut peut-être faire une petite prière du style « Oui, Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne mérite pas ta grâce. Alors Dieu, pardon s'il te plaît, sauve-moi. » Si vous êtes chrétien, c'est bien de se souvenir un petit peu de cette réalité. Mais même si j'ai dit que, au fond, si on change, c'est grâce à Saint-Esprit, notre justification, qui est la base quand même du salut, ça nous aide à vivre notre justification. Ça nous aide à vivre la culpabilité qu'on peut ressentir. Parce qu'il y a une culpabilité objective, notre culpabilité face à Dieu, il y a la culpabilité qu'on ressent. Et bon, les deux ne sont pas forcément en corrélation directe, mais le fait de savoir que Jésus a pris notre culpabilité, ça doit nous aider. Et ça nous aide aussi dans nos relations, dans la façon dont on se voit les uns les autres. Et je ne développe pas ces deux idées parce que je les développerai plus tard. Alors, est-ce que tu peux passer, Dimitri ? Voilà, partie 2, sauvé par la foi seule, chapitre 3, verset 27, jusqu'à 4, verset 25. Je vais traiter cette partie en 30 secondes, parce que je la traiterai en deux fois les prochaines semaines. Alors, la raison principale pour laquelle je n'ai pas traité les versets 27 à 31, c'est que je n'avais pas le temps de les traiter. Mais j'ai quand même trouvé une justification théologique. C'est que, regardez bien, ici nous avons les versets 27 à 31, enfin 30, et ici nous avons le chapitre 4. Et les deux fonctionnent en parallèle, en fait. Chapitre 3, verset 27, la fierté exclue. Chapitre 4, verset 22, la fierté est exclue pour Abraham. Verset 3 à 27b à 28, parce que l'être humain est justifié par la foi et non les œuvres, parce qu'Abraham a été justifié par la foi et non les œuvres. 3, verset 29 et 30, Dieu est le Dieu des circoncis et des incirconcis en vertu de la foi. Et 4, verset 9 à 17, Abraham est le père des circoncis et des incirconcis en vertu de la foi. Et voilà. Donc je sais pas s'il y a... J'ai pas tant que ça à exploser mon temps. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a temps pour quelques questions? Si je suis allé vite sur des choses ou si... vous avez des questions, si ça a suscité...
Alors moi j'ai deux questions qui ont été posées dans le
groupe.
Ouais. C'était par rapport au passage qu'on a vu dans Ésaïe.
Vous avez vu quel passage dans Ésaïe? Ésaïe 6, 12. Ouais.
Donc c'est... Ésaïe
dit
que ses lèvres sont impures.
Ouais.
Et on n'était pas sûr du sens de mes lèvres sont impures. Est-ce que c'est.
Bon, alors, ce qu'il faut bien comprendre avec Ésaïe, c'est que Ésaïe est un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle pour Dieu. C'est un porte-parole. Et donc, il y a deux choses dans lèvres impures. Il y a lèvres et il y a impures. Les lèvres, c'est ce que le prophète utilise pour prophétiser. Et impur, ses lèvres sont impures, mais son être entier est impur. On pourrait vite fait dire... Ça veut dire qu'il est pécheur, en gros. C'est-à-dire qu'il est séparé de Dieu, puisque Dieu est pur. L'homme est impur. Il ne peut pas, du coup, y avoir de contact entre les dieux, entre les deux. Et donc, dans Ésaïe 6, en fait, Dieu purifie les lèvres d'Ésaïe, parce que Ésaïe va parler pour Dieu, en gros. Ça répond à la question ? Okay. Il y a une deuxième question.
La deuxième question, c'était dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. C'était pour savoir ce que ça voulait dire ruine éternelle. Est-ce que c'est ruine spirituelle ou ruine matérielle ?
Alors, la colère de Dieu se révèle dès maintenant, mais la façon dont la colère de Dieu se révèle dès maintenant, c'est un avant-goût de ce qui va se passer plus tard. Alors,
c'est destruction éternelle.
C'est une destruction éternelle. Alors, on pourrait, il y a deux théories qui ont cours et il y a une théorie traditionnelle et une théorie un petit peu nouvelle. C'est l'idée de dire que va y avoir un châtiment éternel, c'est-à-dire que va y avoir il y a ceux qui croient d'un côté, ceux qui ne croient pas de l'autre, et ceux qui ne croient pas vont avoir un châtiment éternel, c'est-à-dire la mort. La mort, qu'est-ce que c'est en gros ? C'est la vie, disons. Est-ce que je vais me tenter à... Je réfléchis à comment je vais aborder les choses. On pourrait comparer la mort à une sorte d'apathie, d'inactivité. Il y a le châtiment éternel, c'est le fait qu'il y a une existence. Le pécheur, celui qui est condamné, continue à exister, mais dans une peine, un châtiment éternel. Et on peut comprendre ça. En gros, celui qui ne croit pas va avoir des remords éternels. L'autre manière de dire, ce serait... Ça fait débat, hein, entre les deux, c'est que celui qui n'a pas foi en Jésus va être détruit, annihilé. L'idée de néant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est... Dans l'idée d'éternité, il y a l'idée de durée. Et une destruction, c'est quelque chose d'immédiat. Il n'y a pas de durée. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Gaëtan.
Tu disais que dans le passage sur Ésaïe avait été purifié.
Ouais. Donc, ses lèvres ont été purifiées, je crois. Ouais.
Juste ses lèvres.
Pardon. Ouais.
Ce qu'il y a, c'est que s'il a été purifié, c'est qu'il a été justifié. Et s'il a été justifié, c'est qu'il a fallu une victime pour le justifier. Et dans ce cas-là, quelle est la victime ?
Alors j'ai dans Romain, je pense qu'on peut directement utiliser Romain pour répondre à cette question. Il y a l'idée que j'en ai pas parlé, j'aurais pu en parler, hein, mais je vais en parler maintenant du coup. Romain le verset 26, fin du verset 25, début du verset 26. Dieu s'est proposé, bon, je lis tout le verset 25, allez. C'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi par son sang, pour montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Le auparavant, c'est la période qu'il y a avant Jésus-Christ. Donc, d'une certaine façon, Dieu s'est retenu d'appliquer la peine définitive que méritaient tous les hommes, depuis le péché d'Adam, en attendant Jésus-Christ. Et à partir de Jésus-Christ, bon, c'est pas tout à fait fini, mais le sacrifice de Jésus, disons que...
Il est rétroactif.
il a un effet rétroactif sur ceux qui avaient foi en Jésus sans vraiment savoir que c'était Jésus, mais qui avaient foi en Dieu, en fait, le Dieu, pas n'importe quelle foi, mais qui avaient en foi en la révélation de Dieu et qui comptaient. Et c'est des gens comme David, lisait le psaume 51, qui avaient conscience que c'est pas par les œuvres qu'ils allaient être sauvés, mais que c'était juste par la grâce.
Et il va l'expliquer avec Abraham dans chapitre 4.
Et exactement, il va l'expliquer avec Abraham chapitre 4. C'est vrai. C'est bon. De toute façon, pose ta question, Keith. Et j'allais dire, de toute façon, si vous avez encore des questions, vous pouvez me poser les questions. Et peut-être même que j'aborderai la question une des deux prochaines fois. Keith.
Tu as dit que la justification est le chrétien avec sa culpabilité intérieure.
Ouais.
Est-ce que tu voulais développer plus?
Je pense que je vais développer plus la prochaine fois.
Je reviens
là. Ouais. Ok. Merci. Je crois qu'on aura la chance de t'avoir jusqu'à au moins la soirée de Noël.